Radio Spirale. Aujourd'hui, un entretien croisé entre les écrivains Emmanuel Carrère et Jean Rollin, réalisé à l'occasion de leur passage à Montréal à l'automne 2011. Carrère venait alors de recevoir le prix Renaudot pour son livre Limonov, et Rollin venait de faire paraître son dernier roman, Le ravissement de Britney Spears, publié tous les deux chez POL. L'entretien a été mené par Julien Lefort-Favreau et se tenait à la librairie Olivieri.
Donc bonjour, bienvenue à tous. C'est étonnant de vous voir en aussi grand nombre. Donc, il faut que je fasse les remerciements d'usage. J'ai des messages aussi qui viennent de Rina. Donc, première des choses, on remercie d'abord les éditeurs de chez POL de nous avoir amené ces deux auteurs pour le Salon du Livre. Jean Rollin, qui est invité d'honneur, et Emmanuel Carrère, qui est à ma droite. Je remercie aussi l'équipe de Gallimard Limité, principalement José Larrault, qui est l'attaché de presse, qui a organisé la rencontre, avec l'aide de Rina Olivieri, qui évidemment nous accueille aujourd'hui. Rina voulait que je précise d'abord environ la durée de la rencontre. Ça va être entre 45 minutes et une heure, et puis après ça, vous pourrez poser des questions et aussi faire dédicacer vos livres par la suite. Sinon, qu'est-ce qu'il fallait que je dise d'autre? Radio Spirale, oui, c'est ça. Alors, quand vous allez poser vos questions, il faut bien les dire dans le micro, parce que la rencontre est enregistrée, donc il faut qu'on vous entende bien quand vous allez poser vos questions. Alors, je crois que j'ai fini le bulletin paroissial, je pense que tout est dit. Alors, je vais vous présenter brièvement les deux auteurs que vous connaissez déjà, sûrement. Emmanuel Carrère, à ma droite, il écrit depuis près de 25 ans, plus de 25 ans. On peut nommer dans ses titres les plus connus « La classe de neige », prix féminin en 1995, « L'adversaire », « Un roman russe »,« D'autres vies que la mienne » et le récent « Limonov », pour lequel il est à Montréal, qui a gagné le prix Renaudot il y a à peine quelques semaines, il y a à peine deux semaines. Je vais dire l'histoire de Limonov, mais très rapidement, parce que vraiment c'est une histoire assez complexe, mais c'est l'histoire vraie, même si assez invraisemblable, d'Édouard Limonov, qui fut... Et je le dis en ordre. Alors, poète sous le régime soviétique à Moscou, puis par la suite, majordome d'un milliardaire à New York dans les années 70, puis écrivain branché à Paris dans les années 80. On passe rapidement sur la période serbe, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis maintenant, chef d'un parti au nom pour le moins douteux, le Parti national bolchevique, parti dissident en Russie. Alors ça, c'est l'histoire très rapidement, on y reviendra plus tard, mais j'aimerais peut-être commencer avec Jean Rollin. Jean Rollin, une vingtaine de livres, un écrivain reporter qui a écrit des reportages pour Géo, pour Figaro, pour Libération. Parmi ses titres les plus marquants, on pourrait nommer L'Organisation, qui avait gagné le prix Médicis en 1996, sur vos années de gauche prolétarienne. On pourrait nommer aussi... Les gens rient, hein, mais pourtant, c'est pas drôle du tout.
Non, vraiment pas.
Non, je pensais pas faire rire les gens autant en disant une telle chose. On peut nommer aussi Campagne, qui vient d'être édité. Là, j'ai vu que vos deux livres étaient présentés, mais on peut aussi nommer Campagne, qui vient tout juste d'être édité à la table ronde. Chrétien, Terminal Frigo, Un chien mort après lui, que beaucoup de gens ont aimé, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et Le ravissement de Britney Spears. Titre sublime. Alors, ma première question sur ce nouveau livre, peut-être que d'abord, vous pourriez nous raconter brièvement l'histoire, mais je suis sûr que les gens se demandent pourquoi Britney Spears, mais ce ne sera pas ma première question.
J'espère bien, oui.
Je suis sûr que vous allez y répondre sans même que j'ai besoin. Ma première question serait plutôt pourquoi le choix de la fiction? Parce que, je l'ai dit, vous êtes un écrivain reporter aussi, vous avez écrit parfois des fictions, parfois des récits, parfois des livres qui étaient un peu les deux. Alors là, il s'agit d'une pure fiction, et je mets évidemment des guillemets à pur parce qu'on on aura le temps d'y revenir, mais pourquoi ce choix de la fiction pour Britney Spears?
Parce qu'à vrai dire, c'était pas possible autrement. C'est-à-dire que enfin, quand je suis parti pour Los Angeles avec un projet assez vague, qui était de, disons, d'étudier le comportement de Britney Spears à l'intérieur d'un environnement déterminé qui est la ville, l'agglomération de Los Angeles, je ne savais pas précisément comment j'allais m'y prendre et quelle forme ça prendrait. Enfin, ce serait le journal d'un type qui cherche à approcher Britney Spears. Est-ce que, bon, puis très rapidement, il m'est apparu D'une part que je n'avais personnellement pas de véritable désir de rencontrer Britney Spears, que d'autre part ce serait probablement assez... Ça tombait bien parce que c'était, semble-t-il, très difficile. Donc il fallait que je construise le récit autrement. Quoi. Et donc là, l'idée m'est venue petit à petit de créer un personnage bon, auquel j'ai prêté évidemment certains de mes traits, et surtout la plupart des choses, je lui ai imputé la plupart des choses que j'ai faites moi-même à Los Angeles, bon, qui est un personnage de non pas de détective, mais d'agent secret. Enfin, c'est un agent des services secrets français qui est chargé de suivre à distance et sans s'en faire connaître Britney Spears pour prévenir une tentative d'attentat contre elle ou d'enlèvement par un groupuscule islamiste. Voilà. Et en fait, il s'avérera chemin faisant que c'est une... il n'y a jamais eu de telle menace et que c'est une embrouille un peu compliquée et que, dont d'ailleurs, moi-même, je ne maîtrise pas toutes les ficelles, mais des services français pour cacher autre chose. Voilà. Et du coup, il échouera dans sa mission, inévitablement, puisque elle ne correspond à rien, et donc il en sera puni par un exil dans un pays assez austère, qui est le Tadjikistan, et dans une ville au Tadjikistan qui est particulièrement austère, qui s'appelle Mourgab, qui est à peu près là où se rencontre la frontière de ce qui était autrefois l'URSS, de la Chine et de l'Afghanistan. Enfin, c'est tout proche de l'Afghanistan. Là. Et donc c'est là que, en fait, c'est de son exil à Mourgab au Tadjikistan, dans son exil à Mourgab au Tadjikistan, qu'il raconte ses aventures à Los Angeles à un de ses collègues ou confrères de ce qu'on appelle encore le KGB, enfin de la police secrète politique de Tadjik. Voilà. Voilà en gros comment. Et donc voilà, tout ça, il y aurait évidemment un caractère fictif.
Vous avez parlé de Los Angeles, vous avez parlé du Tadjikistan aussi. Le Tadjikistan, c'est plutôt le type d'endroit qu'on retrouve normalement dans vos livres. Alors, Los Angeles est un peu surprenant, ou enfin, c'est la première fois que vous faites un livre aux États-Unis. Est-ce que le désir de parler de Britney Spears est venu en premier, ou c'était plutôt le désir de faire ce nouveau voyage aux États-Unis et puis de produire un livre qui vienne des États-Unis, en fait, qui observe la vie de Los Angeles?
Non, j'ai au départ, on ne sait jamais très bien comment les projets de livres se font. De toute façon, c'est généralement au confluent de toutes sortes de choses dont on est plus ou moins conscient, d'ailleurs. Et il se trouve qu'il m'est revenu récemment un truc que j'avais effectivement totalement oublié, qui, d'ailleurs, si je puis me permettre, était légèrement mal interprété par une journaliste d'ici qui me fait dire dans un journal de ce matin que je n'aime pas Céline Dion. Alors, je n'ai jamais rien dit de tel. Ce serait en plus tout à fait maladroit de ma part, venant au Québec, de dire que je n'aime pas Céline Dion. Il se trouve qu'en revanche, que là, et ça, je me dis, je l'avais réellement oublié, ça m'est revenu récemment. J'avais vu dans un journal belge, il y a quelques années, que Céline Dion préparait un disque en Belgique. Et à l'époque, elle avait effectivement reçu des menaces, semble-t-il, assez crédibles, ou en tout cas assez inquiétantes contre ses enfants, d'enlèvement de ses enfants. Et donc, elle s'était retranchée dans une villa moi, je n'ai jamais rien vérifié de tout cela, hein, mais que le journal en question décrivait comme un véritable bunker, et ceci dans une région qui est quelque part entre Mons, Charleroi, etc., enfin, dans un bassin industriel, et notamment sidérurgique, qui est absolument dévasté par la désindustrialisation. Et en gros, c'était le contraste entre cet environnement de la bassin sidérurgique désindustrialisé, avec toutes les conséquences que ça entraîne, et puis cette résidence fortifiée ou bunkérisée où Céline Dion préparait son prochain disque. J'avais trouvé ça très stimulant pour l'imagination. Voilà. Et donc, j'avais à l'époque envisagé d'écrire un livre sur Céline Dion dans le bassin sidérurgique. Voilà. Et puis, ce projet, je l'ai laissé tomber, et il m'est revenu sous la forme de Britney Spears, les aventures de Britney Spears à Los Angeles. Bon. Donc c'est quelque chose d'assez différent, mais avec ce qui est conservé, celui du projet initial, c'est qu'il y a en effet une héroïne, si on veut, qui est donc quelqu'un de célèbre, et un environnement qui, à la limite, m'intéresse autant ou plus que la personne en question. Quoi. C'est-à-dire que dans la phase de préparation de ce livre, j'avais toutes sortes d'appréhensions différentes, mais la principale, je craignais beaucoup que Britney Spears, tout d'un coup, ne déménage, n'aille s'installer à New York, parce que ça ne m'intéressait plus. Enfin, j'avais pas envie d'écrire sur New York, j'avais envie d'écrire sur Los Angeles, et c'est parce qu'elle est Los Angeles que le projet a pris cette forme. Voilà. Et donc j'avais très envie, en effet, de me confronter à Los Angeles, principalement pour la raison que, à l'instar du narrateur et du personnage principal de ce livre, enfin donc de l'agent secret, je ne sais pas conduire. Et, et je n'ai pas l'intention d'apprendre, puis d'ailleurs il est trop tard. Et on m'avait expliqué, comme on le fait d'ailleurs généralement, que c'était absolument impossible de survivre à Los Angeles si on ne savait pas conduire. Voilà. Et j'étais intimement persuadé que c'était faux, que j'arriverais très bien à me débrouiller à Los Angeles sans automobile. Et c'est ce que j'ai fait pendant 3 mois, et c'est ce que fait aussi le personnage de ce livre. Voilà.
J'ai une question un peu de cuisine, si on peut dire, parce que vous avez parlé un peu de la préparation du livre, mais comment vous vous préparez? Parce que ces livres, celui-là, mais les précédents ont un côté un peu, disons, je ne sais pas si anthropologique serait le bon terme, mais certainement un côté enquête. On va sur le terrain et puis on observe les choses. Comment vous préparez un voyage, par exemple, à Los Angeles par rapport à un voyage au Tadjikistan ou un voyage en Palestine ou un voyage en Afrique?
C'est comme une sorte de stage commando. Non, je ne sais pas quoi. Préparation de. Qu'est-ce que vous voulez dire ben, je ne sais pas, comme tout le monde, quoi. J'étudie. D'abord, je lis. Je ne sais pas, ça consiste de toutes sortes de choses. Hein, bien évidemment, c'est ce qui tombe sous le sens, c'est que ça consiste notamment à se procurer des plans, des cartes, etc. Ce qui, d'ailleurs, s'est avéré impossible à Paris. Il y a un seul bon plan de Los Angeles qui est en deux morceaux, nord et sud, et qu'on ne peut se procurer strictement que sur place, et encore dans très peu d'endroits. Et la plupart des cartes et des plans de Los Angeles qu'on trouve, y compris aux États-Unis, mais a fortiori dans le reste du monde, sont absolument inutilisables, enfin, sont très faibles. Comment. Donc ça, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver. Donc ça, c'est le rudiment. Enfin bon, après, il y a toutes sortes de choses. Trouver, localiser. J'ai lu, bien entendu. D'abord, j'ai lu me familiariser avec ce personnage que je ne connaissais pas ou très peu. Bon, donc regarder des clips de Britney Spears. Donc me familiariser avec son aspect extérieur, qui d'ailleurs est assez attrayant. Bon, avec sa musique. J'ai lu une ou deux biographies autorisées de la même personne. Je me suis mis à lire plus ou moins assidûment des journaux spécialisés, enfin de la presse People, pour voir un peu comment tout ça se... J'ai trouvé, par exemple, des choses très intéressantes dans un journal, je ne sais plus lequel, peu importe, d'ailleurs, c'était une époque, en plus, c'était aussi une des raisons, d'ailleurs, de l'intérêt qu'elle m'inspirait, où Britney Spears faisait énormément de conneries. Enfin, elle avait une vie extrêmement dissolue, elle buvait beaucoup, elle se défonçait, elle s'envoyait en l'air avec un tas de types, etc. Bon. Et elle errait, notamment, elle avait une voiture, enfin, ce détail n'est pas sans importance, qui était un coupé Mercedes blanc, très joli, bon, et avec lequel elle décrivait des parcours complètement aléatoire dans l'agglomération de Los Angeles, plutôt quand même dans les quartiers nord qui sont nettement plus accessibles pour des gens comme elle que les quartiers sud, qui sont plus pauvres, plus mélangés et potentiellement plus dangereux. Bon. Mais donc à l'intérieur d'un périmètre quand même assez vaste de Los Angeles, elle décrivait des parcours tout à fait aléatoires avec ce fameux coupé Mercedes, bon, s'arrêtant dans des hôtels, y passant quelques heures, après ressortant, allant dans des boîtes, des restaurants, etc., rencontrant des gens bizarres. Et le magazine, le journal en question, reproduisait comme ça une carte des errances de Los Angeles, de Britney Spears dans Los Angeles pendant une semaine ou 10 jours. Voilà. Et c'était un des points de... Enfin, finalement, ça m'a servi à rien parce que j'avais envisagé de décrire cet itinéraire et puis comme entre-temps, elle avait rompu avec ce style de vie dissolu. Pour un style de vie beaucoup plus familial et pépère, elle sortait à peine de chez elle, etc. Donc beaucoup de la documentation que j'avais accumulée auparavant m'a servi à rien. Bon. Alors après, ça c'est ce qui tombe sous le sens, si vous voulez, ce qui est ce sans quoi j'aurais pas pu travailler. Mais après, il y a toutes sortes de choses qui peuvent inclure de lire des romans de Bret Easton Ellis, par exemple, qui est un écrivain que je déteste, mais enfin, dont il faut bien reconnaître qu'il est assez représentatif quand même. C'est-à-dire qu'il est important. Enfin, je pense que c'est un écrivain important. Bon, je ne l'aime pas, mais il décrit une certaine forme de vie à Los Angeles qui n'était pas démesurément éloignée de ce que je voulais moi-même explorer. Bon, donc, lire des livres de Bret Easton Ellis, voir des films qui se passent à Los Angeles. Bon, comme chacun sait, c'est quand même la capitale du cinéma. Il y a énormément de films, et notamment beaucoup de très bons films qui sont, bon, à différentes époques, qui sont tournés à Los Angeles. Donc je sais que moi, j'ai revu en particulier Mulholland Drive, puisque mon envie d'aller à Los Angeles procédait très largement du goût que j'ai pour ce film, Mulholland Drive. et ainsi de suite. Donc vous voyez, j'ai des livres, les cartes, des références littéraires, des références cinématographiques, voilà, et ainsi de suite, quoi. Bon.
Peut-être pour les gens qui n'auraient pas lu vos livres précédents, j'aimerais peut-être que vous parliez un peu de la clôture, parce qu'il me semble que c'est pas tout à, ce que vous faites dans ce livre-là, ce n'est pas tout à fait étranger ce que vous faites dans la clôture, c'est-à-dire une pérégrination urbaine, mais dans un non-lieu, c'est-à-dire non pas dans les lieux de la ville qui sont a priori intéressants ou dont on pourrait croire qu'ils sont intéressants, des lieux un peu abandonnés ou des lieux un peu laissés vacants.
Oui, enfin, je vais parler de la clôture. Enfin, moi, c'est quand même assez ancien, mais ce qu'il y a de commun entre les deux, et de toute façon, ce qu'il y a de commun, je pense, à la plupart de mes livres, c'est, enfin, dans la démarche, en tout cas, qui préside à leur écriture, bon, c'est presque toujours au préalable, il y a la définition d'un territoire. Voilà. Donc, en effet, un travail assez important de topographique, enfin, en tout cas, de lecture de cartes, etc. Généralement, outre des idées plus ou moins farfelues, comme celle que je citais tout à l'heure de Céline Dion à la sidérurgie, il y a un territoire. De la même façon, d'ailleurs, si j'avais persisté dans ce premier dessin, je me serais procuré également des cartes de la Belgique. J'aurais étudié des itinéraires, j'aurais essayé de savoir lesquels elles-mêmes empruntaient, etc. Enfin bon, pour moi, c'est très important, effectivement, de l'enracinement topographique est quelque chose de très important. Voilà. Alors, ça peut être un territoire très... Dans le cas de la clôture, c'était un territoire assez minuscule. Enfin, c'était exactement 5 km de part et d'autre des boulevards extérieurs, enfin, ce qu'on appelle aussi les boulevards des Maréchaux à Paris, bon, entre deux portes. Ça faisait à peu près 5 km de long, voilà. Bon, voilà, le territoire à l'intérieur duquel je m'étais confiné et dans lequel le récit se déroule. Enfin, en tout cas, la partie contemporaine du récit, puisqu'il y a également une partie historique. Il se trouve que le boulevard, sur cette partie de son cours, est nommé d'après le maréchal Ney, et que le livre raconte, décrit des scènes contemporaines, des scènes d'aujourd'hui autour de ce boulevard, et par ailleurs des épisodes de la vie et de la carrière militaire du maréchal Ney en question. Mais donc toujours, au départ, cet aspect cartographique qui est très important. Voilà. Il arrive que, j'ai écrit aussi un livre qui s'appelle Terminal Frigo, bon, qui se passe, qui décrit, qui évoque des zones portuaires en France. Et là, ça procède. Enfin, il se trouve que moi, j'aime énormément l'activité portuaire. Mais là, c'est vraiment la lecture de cartes, quoi, de cartes détaillées, c'est-à-dire des cartes IGN, enfin, qui sont pratiquement du niveau des cartes qu'utilisent les militaires, où il y a tous les détails, tous les bâtiments, etc. La représentation des espaces portuaires sur les cartes est, pour moi, particulièrement captivante. Quoi, voilà. Et donc, c'est la lecture de cartes détaillées de Dunkerque, du Havre, etc., des zones portuaires en activité, des zones portuaires désaffectées, en friche, etc., qui m'avait donné envie d'écrire ce livre. Donc c'est en effet pour moi extraordinairement important, les cartes.
Peut-être que j'ai une dernière question avant de passer à Emmanuel. De toute façon, on reviendra peut-être, j'aimerais parler un peu de campagne tout à l'heure parce que c'est pas sans lien avec Limonov, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais une dernière chose que j'aimerais évoquer, c'est parce qu'on a quand même souligné l'aspect comique de votre livre, mais de votre façon de vous déplacer dans Los Angeles ou de la façon dont votre agent secret se déplace à Los Angeles, c'est-à-dire en autobus, on a aussi accès à un autre Los Angeles. C'est-à-dire, vu qu'on vous avait dit, personne ne prend les transports en commun à Los Angeles, tout le monde se promène en voiture, or vous découvrez une réalité qui est autre, qui est aussi un autre Los Angeles, qui est un Los Angeles assez différent de celui de Britney Spears.
Oui, ben ça c'était, bon, à la fois c'était délibéré, enfin je ne comptais pas passer 3 mois à Los Angeles autour du château Marmont et des lieux que fréquentent effectivement les stars. Je suis retombé, si vous voulez, dans ce qui est mon pli ou mon ornière habituelle, qui est d'explorer en effet des zones un peu comme ça, indéfinies, un peu en friche, des confins. Enfin, voilà, par exemple, comme chacun sait, Los Angeles est la ville des freeways, enfin des autoroutes, généralement pas toujours d'ailleurs aériennes. Et par exemple, les dessous d'autoroutes urbaines, c'est presque toujours quelque chose de très intéressant, quoi, avec une ambiance évidemment assez particulière, une population particulière, etc. Enfin, c'est vrai aussi d'ailleurs en Europe, mais ça l'est peut-être encore plus à Los Angeles. Et Par la force des choses, j'ai dû me déplacer en bus. J'ai fini par acquérir une assez grande maîtrise, dont je suis curieusement assez fier. D'ailleurs, je retire une certaine vanité quoi, de mon excellente connaissance du réseau des bus de Los Angeles. Parce que j'ai remarqué que la chose était assez rare parmi les caucasiens, comme on dit aux États-Unis. Bon, voilà, beaucoup de gens qui habitent là-bas. Enfin, j'ai rencontré des gens, brièvement, des Français qui travaillent là-bas, presque toujours dans le cinéma. Pratiquement, ils ne savent pas qu'il y a des bus. Enfin, ça ne leur vient pas à l'esprit d'en prendre. Et il y a vraiment un clivage de classe qui ne se retrouve que dans très peu de villes au monde, à ma connaissance. Quoi. Ce n'est pas du tout le cas du métro de New York, par exemple. Woody Allen prend le métro. Enfin, en tout cas, dans ses films, on prend le métro. Si lui-même ne le prend plus, tout le monde prend le métro à New York. En revanche, les usagers des bus de Los Angeles sont presque uniformément des gens extrêmement pauvres. Assez souvent ce qu'on appelle en France des primo-arrivants, enfin en tout cas des gens d'importation récente, majoritairement latinos, et qui exercent des professions telles que femmes de ménage, promeneurs de chiens, serveurs dans des établissements de restauration rapide, gardiens de nuit, etc. Bon. Et c'est vraiment très très... incidemment, beaucoup de handicapés qui, pour la plupart, s'avèrent être des mutilés de guerre, qui est une chose à laquelle, en Europe, on est totalement déshabitué. Enfin, il y a toujours dans le métro à Paris les places, je ne sais même pas s'il y en a encore d'ailleurs, mais il y avait les places réservées aux mutilés de guerre, enfin mutilés de guerre et infirmes civils. Nous avons quand même en Europe désormais très peu de mutilés de guerre. Aux États-Unis, ils en ont beaucoup. Ils en ont beaucoup, puisqu'à vrai dire, ce pays n'a pas cessé d'être en guerre depuis des dizaines d'années, même si on le remarque plus ou moins. Et donc c'est une chose très frappante également. Tous ces bus sont très bien équipés pour recevoir des handicapés, ce qui incidemment... Le seul problème des transports en commun de Los Angeles, c'est que la durée des trajets est infinie, quoi, parce que c'est une ville immense. Et l'est d'autant plus en bus que ces bus, ce qui est très bien, évidemment, sont équipés pour recevoir des handicapés, mais que donc chaque fois qu'un handicapé monte, ça fait que le bus s'arrête un quart d'heure, parce que c'était très long de faire monter la chaise roulante, après de l'arrimer à l'endroit adéquat, etc. Et donc ça rallonge encore démesurément les temps de trajet en bus. Donc il y a cette catégorie également de gens, et puis il y a des dingues, il y a beaucoup de dingues, beaucoup de gens qui parlent tout seuls, de gens qui chantent des hymnes, comme ça. Et il y a aussi des SDF, et en particulier, alors ça je l'ai découvert plus tardivement, mais dans les bus de nuit, il y a des bus qui fonctionnent 24 heures sur 24, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un certain nombre, et qui sont utilisés notamment par des SDF comme asile de nuit, quoi. C'est-à-dire que les types ils vont d'un bout à l'autre d'une ligne de bus. De bout à l'autre d'une ligne de bus à Los Angeles, ça peut être extrêmement long, c'est des dizaines et des dizaines de kilomètres. Et puis ils se font éjecter une fois que le bus est arrivé à son terminus, et là ils remontent dans le bus qui repart dans la direction opposée, et ainsi de suite. Et donc il y a des gens aussi extraordinaires que ça puisse paraître, parce que c'est évidemment la nuit ça roule mieux, donc il y a énormément, les bus vont très vite, il y a énormément de chocs, de chaos, et on voit des types complètement désarticulés, mais qui arrivent à dormir, d'un terminus à l'autre. Donc pourquoi est-ce qu'on parlait des bus, enfin pourquoi est-ce que je parlais des bus plus précisément, je sais plus, voilà, c'est comme ça.
Non, mais je vous ai répondu à ma question.
Vous avez, oui, c'est donc ce jeu.
Vous savez pas, mais vous avez répondu à ma question.
Mais c'est, ça tombe bien, alors.
Merci beaucoup, Jean. Emmanuel, avant de parler de Limonov directement, peut-être que j'aimerais que vous parliez un peu de la genèse du livre, parce que si on a dit que Jean était reporter, Limonov, avant d'être un livre, ça a été un reportage, en fait.
Oui, j'avais fait un reportage pour un magazine qui s'appelle 21, c'était le premier numéro, qui est un magazine qui se propose de publier des grands, ce qu'on appelle des grands reportages, c'est-à-dire des reportages aussi assez longs, ce qui est assez rare dans la presse. Et j'avais eu l'idée, enfin, pour dire les choses, ce Limonov dont vous avez brièvement évoqué la carrière chaotique, je l'avais un petit peu connu, enfin croisé, côtoyé dans les années 80, à l'époque où il vivait à Paris, où c'était une espèce de dissidents assez rigolos qui tranchaient sur les figures plus solennelles de dissidents, comme vous voyez, un peu à l'image de Solzhenitsyn, qui est par ailleurs une figure pour qui j'ai littéraire et historique, qui est beaucoup plus considérable que Limonov et pour qui j'ai une immense admiration. Mais en tout cas, Limonov était une espèce de dissident un peu rock'n'roll, de dissident punk comme ça, qui avait écrit des livres sur sa vie aventureuse, qui pouvait faire penser un peu en exagérant, mais à une espèce de presque de Jack London russe, vous voyez, de cette, non, mais de ces types qui ont fait, qui impressionnent beaucoup d'ailleurs les écrivains français. C'est une chose qu'on admire chez les écrivains américains, qu'ils ont fait un tas de métiers, qu'on les crédite souvent à raison, enfin, d'une expérience de la vie beaucoup plus riche que celle de gens qui n'ont fait qu'écrire des livres, quoi. Et donc voilà, j'avais connu Limonov à cette époque, je l'avais interviewé comme journaliste, j'aimais ses livres, et il s'est passé que, quand le communisme s'est effondré, Limonov a pris une drôle de tangente, c'est-à-dire que d'une part, comme vous le rappeliez, il est allé faire le coup de feu aux côtés des Serbes dans les guerres des Balkans. Et ensuite, il a fondé en Russie cette espèce de parti, enfin, indéfinissable, à la fois néo-fasciste, nostalgique du stalinisme, enfin, de trucs avec des jeunes mecs au crâne rasé qui circulaient dans Moscou en levant le poing et en braillant Staline, Beria, Goulag, sous-entendu qu'on nous les rende, ça irait mieux. Bref, pour les gens qui étaient au courant de ça, et qui avait connu Limonov et qui aimait bien Limonov à Paris dans les années 80, c'était très très refroidissant, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Et il se trouvait que j'avais fait en 2006, au lendemain de l'assassinat de la journaliste Anna Politkovskaya, un reportage, enfin, sur elle, en rencontrant des gens qu'il avait connus, tout ça, et qui, au fond, sont le très petit monde, hélas, vraiment très petit monde, des démocrates, des défenseurs des libertés formelles, tout ça en Russie. Et à ma grande surprise, dans ce petit monde, Limonov était en odeur de sainteté, enfin, passait vraiment pour un type formidable, et des gens comme Anna Politkovskaya de son vivant, ou Elena Bonner, la veuve de Sakharov, c'est-à-dire vraiment une conscience démocratique absolue pour la Russie, parlait avec, enfin, pas seulement de l'indulgence, mais énormément d'estime de Limonov et de ces jeunes gens au crâne rasé, comme s'ils étaient vraiment l'avenir de la Russie. Ça m'a énormément troublé, étonné, enfin, je me disais, que ce simple fait disait quelque chose, enfin, sur je ne sais pas, une espèce de confusion des valeurs, quelque chose comme ça, qui fait que quand ces gens qui ont lancé ce magazine 21 m'ont dit « t'aurais pas une idée de reportage, enfin, un truc que t'aimerais faire pour le premier numéro », j'ai dit « ben, moi, j'aimerais bien aller voir Limonov, que c'est le je suis donc aller passer une quinzaine de jours aux côtés de Limonov, que j'avais pas vu depuis 20 ans, qui, à ma grande surprise, se souvenait parfaitement de moi. C'est un type qui a une mémoire insensée. Il se souvenait même, par exemple, du fait que j'avais une moto, une Honda 125 rouge à cette époque. Enfin, ça témoigne quand même d'un disque dur et extraordinairement riche en données. Et bon, alors, j'ai passé 15 jours avec Limonov à encore moins comprendre, enfin, à me dire... et surtout à ne pas comprendre, à échouer complètement à me former une véritable opinion à son sujet. Je me demandais, au fond, si je le trouvais, si je l'aimais plutôt bien, si je trouvais que c'était un sale type. J'arrivais pas du tout à savoir ce que j'en pensais. Ce qui était, m'a-t-il semblé, un bon moteur pour entreprendre un livre. Et au fond, repensant à cette vie quand même très, très aventureuse qui était la sienne, je me suis dit que raconter la vie de Limonov, c'était une bonne occasion, enfin, pour faire deux choses à la fois. L'une qui était dérouler une espèce de roman d'aventure, quand même, et même de roman picaresque, on pourrait dire. Enfin, c'est-à-dire l'histoire comme ça, d'un personnage à la fois énergique et sans scrupules, mais qui traverse le monde, qui traverse les milieux les plus divers, tout ça, et les pays les plus variés. Et puis que c'était aussi un bon fil conducteur pour raconter quelque chose sur l'histoire de la Russie, et particulièrement l'histoire de la Russie des 20 ou 30 dernières années, c'est-à-dire de la fin du communisme et de ce qui lui a succédé. Donc il y avait cette idée à la fois d'une trajectoire individuelle qui était vraiment un roman d'aventure, et d'un arrière-plan enfin, très riche et passionnant à raconter. Donc voilà, c'était donc, comme vous le disiez, partie d'un reportage que j'ai décidé de... Enfin, il y avait, je sais pas, 25 feuillets, et j'ai décidé d'en faire 500, quoi, voilà. Et il y avait matière, me semblait-il.
Quand on lit le livre, à moins d'être un spécialiste de la Russie contemporaine, de la politique russe contemporaine, en effet, cette question de la dissidence me semble un peu compliquée. En fait, moi, j'ai rien compris. C'est-à-dire, j'ai pas compris exactement. Peut-être que j'aimerais que vous l'expliquiez, si vous êtes capable de l'expliquer, parce que je suis pas sûr qu'il soit vraiment.
Il y a dans ce livre beaucoup de choses que j'ai oui, auxquelles je n'ai rien compris non plus.
Mais ce parti national bolchevique. Pourquoi tout d'un coup milite aux côtés de Kasparov pour la démocratie? Parce qu'il semble que les idées démocrates ne soient pas les préférées de Limonov. Il ne semble pas avoir d'affinité particulière, disons, avec les droits de l'homme.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui.
Alors, pourquoi, qu'est-ce qu'il reproche à Poutine au jeu? Ça serait ma question, c'est une question assez simple.
Alors oui, en effet, Limonov se trouve actuellement dans la position qui fait de lui finalement quelqu'un... Enfin, sinon, d'estimable, je ne sais pas, mais en tout cas d'estimé, il se trouve dans la position d'un des opposants les plus importants, je ne sais pas, mais d'abord, il n'y en a pas tant, mais des plus déterminés au gouvernement de Vladimir Poutine. Or, comme vous le dites, je vois pas très bien ça ne correspond à rien de son passé, qui est celui quand même d'un fasciste, il faut bien le dire. D'un type qui a toujours détesté tous les dissidents, tous les démocrates, en les considérant toujours comme des espèces de... Vous savez, c'est le discours classique qui consiste à dire que c'est des belles âmes, des gens vertueux, des gens ennuyeux, des gens... Tandis que lui, se présentant comme une espèce de voyou, voilà. Et au fond, je crois que... Enfin, mon opinion personnelle, c'est que si Limonov, ce qu'à Dieu ne plaise, se trouvait au pouvoir, il ferait sans doute des choses beaucoup plus extravagantes que Poutine. Mais enfin, je pense qu'il aurait toutes les raisons du monde d'avoir une certaine admiration pour Poutine, qui en gros, enfin, pour un pouvoir en gros dur et méchant et qui dit qu'on se laisse pas marcher sur les pieds,
qui
quoi.
Qui
essaye de restaurer, sinon l'empire soviétique, du moins, enfin, de continuer à faire peur, quoi, comme c'était le cas autrefois. Bon, je pense que tout simplement, c'est à peu près tout ce qu'il y a comme créneau de libre, quoi. C'est l'opposition pour quelqu'un qui se veut, et ça, on peut pas lui retirer ça, un rebelle, parce qu'au fond, Limonov étant quand même un écrivain estimé et à juste raison, et par ailleurs quelqu'un de très admiré de la jeunesse, parce que c'est quelqu'un qui est assez charismatique, comme on dit, je pense qu'au fond, il aurait très bien pu faire son trou, enfin comme comme apparatchik culturel dans l'administration Poutine ou un truc comme ça. Et ça, il faut lui reconnaître que il a jamais été tenté de ça. Et c'est quelqu'un qui n'est jamais du côté du manche, quoi. Donc pour quelqu'un qui se met dans une position de rebelle éternel, il n'y a qu'une place, c'est d'être contre Poutine. Ce qui lui vaut d'être un peu plus estimé qu'il ne l'était auparavant.
Vous l'avez dit, Limonov a écrit des livres, et puis vous les utilisez, ces livres, en fait, pour construire votre récit. Donc j'aimerais savoir à quel point vous avez fait confiance à ce qu'il écrit dans ces livres, à quel point vous avez été vérifier les informations sur le terrain, parce que votre livre, c'est à la fois une enquête de terrain et puis une relecture de ce que lui dit, c'est-à-dire on lui fait confiance jusqu'à un certain point. Donc j'aimerais savoir comment vous avez construit, en fait, votre objet.
Ce qu'il importe de rappeler, c'est qu'en dehors d'être un aventurier, Limonov est un écrivain de talent, vraiment, enfin au moins pendant pas mal de ses livres, et un autobiographe principalement. Donc il a raconté une grande partie de sa vie il a comme ça débité de livre en livre, il y en a une dizaine. Ça couvre pas toute sa vie, ça couvre beaucoup moins d'ailleurs ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années, pour la raison que c'est essentiellement un homme d'action, un homme politique, oui, un homme politique à sa façon, un chef de parti, quelqu'un qui se propose, même s'il a fort peu de chance, mais de prendre le pouvoir quand même dans son pays. C'est quand même ça son idée. Donc ça lui laisse moins de temps pour écrire sa vie. Mais donc, en fait, mon information principale sur sa vie vient de lui. Et j'ai pris le parti de lui faire confiance, à vrai dire, parce que je pense qu'il a beaucoup de défauts, mais qu'il n'est pas menteur, à la fois parce que c'est un homme qui n'a aucune imagination, et que, par ailleurs, il n'a aucune espèce de surmoi. Il a vraiment honte de rien, y compris, enfin, et il avoue très placidement des choses qui sont vraiment pas à son honneur. Donc, j'ai décidé de le croire. Alors, d'abord, quand vous dites vérifier, recouper, ce qui est effectivement ce qu'on doit faire dans une enquête, et a fortiori, si on veut faire une espèce de biographie sérieuse, ce qui n'était pas absolument mon projet, enfin, je ne voulais pas faire une biographie à l'américaine, comme on dit. Mm-hmm. Mais enfin, je ne voulais pas non plus dire n'importe quoi. Mais il y a des choses qui, évidemment, enfin, sur lesquelles il était très, très difficile d'enquêter. Enfin, quand Limonov raconte sa jeunesse de délinquant juvénile à Kharkov dans les années 50 et 60, j'aurais certainement eu du mal à aller recouper ou contrôler les choses. Il y a quand même, à chaque fois que l'occasion se présentait, alors, il y a les choses que j'ai connues un tout petit peu de première main, c'est-à-dire quand il était en France, je l'ai un peu connu, et puis il a connu des gens que je connaissais, tout ça. Quand il était dans les Balkans, à Sarajevo, il y a des gens dont Jean Rollin, qui n'a pas rencontré Limonov, mais disons qu'il se trouvait à peu près aux mêmes endroits, au même moment. Donc j'avais le témoignage de gens comme Jean ou comme Jean Hatzfeld, par exemple, qui fait que je pouvais raconter presque les mêmes événements tels qu'ils ont été vécus par Limonov et par d'autres gens dont je me sentais plus proche, à vrai dire. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai procédé. Encore une fois, oui, sur sa vie, je me suis fié à lui.
Si Limonov est pas mythomane, il est certainement mégalomane, et puis il devait être absolument ravi que vous écriviez un livre sur lui, un gros livre de 500 pages sur lui. C'est une question un peu triviale, mais est-ce qu'il a lu le livre? Est-ce qu'il l'a apprécié? Ou est-ce que c'est pure curiosité? Hein,
mais c'est pas du tout une curiosité. Oui, c'est une curiosité que je trouve tout à fait légitime. Je pense qu'il était... quand je lui ai dit que j'écrivais un livre sur lui... Enfin, déjà, il était un peu surpris quand j'étais venu faire un reportage. Et il était très, à la fois aimable, mais assez réservé. Ce que je comprends assez bien, parce que vous voyez, il avait quand même très, 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 très mauvaise presse en France, pour autant qu'on pensait encore à lui. Mais, et donc, voyant un journaliste et écrivain français venir faire un long portrait de lui... Il avait toutes les raisons de se demander si c'était du lard ou du cochon. Enfin, si j'étais plutôt là dans l'idée de le réhabiliter ou plutôt dans celle de dénoncer le salaud et le fasciste qu'il était. Je pense qu'il a... Enfin, à vrai dire, je ne me proposais de faire ni l'un ni l'autre. Et c'était ce qui est une position qui était assez difficile à tenir, en fait, qui d'ailleurs rendait le livre intéressant à faire. C'est-à-dire que je voulais absolument pas me faire l'avocat de Limonov et pas non plus tenir un rôle de procureur. Je dis dans le livre, et c'est peut-être un peu hâtif de ma part, que j'ai constamment suspendu ou réservé mon jugement. La vérité serait plutôt que mon jugement n'a pas cessé de varier et qu'il changeait selon les circonstances, selon les moments de sa vie que je racontais, puisqu'il y a des moments où je le trouvais... Non seulement je désapprouvais ses engagements, comme par exemple aux côtés des Serbes, mais en plus je le trouvais pire qu'odieux, ridicule à certains moments. Enfin, comme une espèce de méchant petit garçon qui fait comme s'il tirait sur les gens à la foire du trône, quoi. Mais et il y a d'autres moments où il m'inspirait d'un réel respect, une réelle estime, comme par exemple quand il a été foutu en prison quand même à l'arrivée de Poutine au pouvoir. Il a, sous l'inculpation d'ailleurs assez romanesque de tentative de coup d'État au Kazakhstan, il a été foutu en prison où il a passé 3 ans et demi, sachant qu'en plus il en était requis 14 contre lui. Il avait passé la soixantaine et il était quand même dans des prisons. C'est pas une partie de plaisir, quoi, dans des prisons de droit commun en Russie. Il a été absolument impeccable, enfin, de dignité, de courage, ne la ramenant pas, ne jouant pas, en étant un détenu parmi d'autres. Et les livres qu'il a fait le racontant ça, vraiment en font foi. Donc je me perds un peu dans ce que je racontais là.
Mais ma question, est-ce qu'il a lu le livre?
Oui, voilà. Non, alors pour répondre directement, il a donc fini par lire le livre, et je peux vous citer in extenso, parce que c'est court, le mail qu'il m'a envoyé, qui était « Mon cher Emmanuel, je me réjouis du succès que semble obtenir votre livre en France. Quant à ce que j'en pense moi, je vous le dirai un jour, ou peut-être jamais. » C'est mieux comme ça, bien amicalement. Cela dit, Cela dit, il a un site en Russie sur lequel il a mis non seulement tous les articles parus dans la presse française et certainement maintenant québécoise concernant ce livre, et même le livre lui-même d'ailleurs, enfin, d'une façon d'ailleurs tout à fait scandaleuse, c'est-à-dire qu'il a on peut télécharger le livre intégralement sur le site de Limonov, je tiens à vous le dire. Je ne sais pas comment il s'y est pris. Et non, alors par ailleurs, je fais une parenthèse. Je signale qu'on peut regarder, sur Internet, Limonov 2012, YouTube ou un truc comme ça. Il y a un hallucinant spot de publicité politique sur Limonov qui se propose de se présenter aux élections présidentielles en 2012, qui est totalement hors de question. Mais enfin, à défaut de se présenter, il pourra faire de s'agiter, enfin, d'une façon ou d'une autre. Et il y a un spot, enfin, je vous le raconte, enfin, on voit en gros le monde aujourd'hui, et pas seulement la Russie, on voit des gens dans le monde entier, dans le désert, dans en Asie, on voit des gens qui sont tous terriblement abattus, un monde sans âme, déshumanisé, que vont devenir nos enfants, enfin, tout ça. Tous ces gens sont abattus, endeuillés, et dans le meilleur des cas indignés, tout ça. Et puis, petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire, et puis des portraits de Limonov apparaissent entre des immeubles, des choses comme ça, et il y a une espèce de sauveur du monde qui est en train d'apparaître, et c'est lui, notre héros, Édouard Limonov. Enfin, je ne sais pas quel est le degré de second degré de mégalomanie pure. Enfin, c'est un truc, mais stupéfiant. Ce que vous pouvez vérifier dès que cette rencontre sera finie, quand vous irez c'est vraiment un truc assez marrant à voir.
Mais si Limonov a ce côté loufoque, le moment du livre qui est certainement le plus compliqué et puis où on vous sent vaciller, vous dites que votre opinion sur Limonov ne cesse de varier. Il y a un moment où là, vraiment, vous êtes mal pris avec ce personnage, c'est le moment, c'est son engagement en Serbie. Alors là, si Jean a envie d'intervenir, par exemple, sur des faits, parce que Jean est cité à comparaître, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'il y a des citations de campagne sur qu'est-ce qui se passe en Serbie, parce que cette espèce d'engagement serbe, il est à peu près incompréhensible, sinon la volonté d'aller faire la guerre comme un homme. En fait, c'est à peu près la seule raison, mais j'aimerais que vous me parliez de ce moment du livre, parce que c'est le moment, d'une certaine façon, le plus fragile, où on n'arrive plus à comprendre du tout, alors que jusqu'à date, il était, oui, certainement un peu réactionnaire, mais là, tout d'un coup, ça devient moins drôle, quoi.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Du reste, il y a un moment où j'ai arrêté le livre pendant, d'ailleurs, plus d'un an, et à ce moment-là, je pensais l'abandonner pour de bon, parce que je me disais, c'est pas seulement la réprobation. C'est, je me disais, mais pourquoi est-ce que j'écris un livre sur ce vilain petit bonhomme? Enfin, il y a un moment où il m'apparaissait comme ça, quoi. Et puis bon. Voilà, j'ai terminé un autre livre, mon livre précédent, qui est paru, tout ça. Et puis, comme on a terminé un livre, finalement, ensuite, on se remet, on va regarder dans ses fichiers, qu'est-ce qu'il y a. Puis j'avais ce truc commencé, j'ai relu un peu ce qu'il y avait. Je me suis dit, non, c'est intéressant quand même, et je m'y suis remis. Mais quand même, il y a vraiment un moment où j'ai renaclé, quoi. Où j'arrivais plus à le faire. Mais je pense, cela dit, que votre explication est la bonne. Hein, c'est-à-dire que... il voulait faire la guerre, quoi, faire la guerre comme... Et il y a à un moment, je me suis posé la question de savoir que j'ai pas la réponse de s'il lui est arrivé de réellement tuer un homme dans sa vie. Quand je lui ai posé la question, il a répondu de façon très évasive. Mais je pense sincèrement que dans l'idée de Limonov, qui a une espèce de vision du monde, de vision du monde et de sa propre vie, de son propre destin, qu'il a toujours voulu être un destin héroïque, un destin d'exception, un destin de héros. Dans son idée, une vie héroïque, c'est une vie qui se définit par la plus grande variété, la plus grande intensité d'expérience. Enfin, en gros, il faut faire le maximum de choses dans la vie. Et je pense que dans l'idée de Limonov, avoir tué un homme, c'est une expérience à faire une fois dans la vie. Ça serait dommage d'avoir raté ça, quoi. C'est un truc, faut le faire, quoi. Sinon, on n'a pas vraiment vécu. Et donc, la guerre, je pense que c'était ça pour lui. Par ailleurs, il y a des choses qui peuvent s'expliquer. Enfin, le fait d'avoir pris le parti des Serbes, et pour un Russe, n'est pas si extravagant que ça non plus. Enfin, il y a du côté...
Pardon. Pardonne-moi, non, sur la question de a-t-il tué un homme ou non, il me semble, il n'y a pas un épisode de sa jeunesse, quand il est un voyou errant là, dans sa ville natale, Oui, il y a une histoire de mecs qui attaquent une fille, etc. Est-ce qu'il ne se vante pas là, d'avoir tué les mecs?
Non, il raconte qu'il a participé à ce qui s'appelle un viol collectif.
Oui, mais il n'y a pas...
Il y a un mec à qui on a, semble-t-il, très 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 sévèrement cassé la gueule.
Oui, quoi, mais il n'y a pas de meurtre là. Oui. Je croyais qu'il y avait une revendication de meurtre.
C'est pas clair, ouais, non. Ouais. Et en tout cas, non, c'est pas lui qui... Lui est gamin est un très jeune, un adolescent et assiste à ça en partant.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y avait d'autres personnages comme Limonov qui étaient comme ça en Serbie? Est-ce que Limonov était connu parce qu'il était aux côtés de ce paramilitaire Arkan? Il militait à ses côtés, je ne sais pas si on peut dire le terme milité. Est-ce qu'on connaissait son engagement à ce moment-là? Parce que vous étiez sur place durant ces années.
Enfin, j'étais sur place, moi j'ai été... j'ai commencé à... comme journaliste, je veux dire, par couvrir... certains épisodes de la guerre au début, enfin genre de la guerre serbo-croate, hein, quand elle opposait, donc, à l'époque où les Bosniaques n'y étaient pas mêlés, à telle enseigne d'ailleurs qu'on vous recommandait à cette époque-là, enfin si vous aviez une bagnole immatriculée à Zagreb, une voiture de location, parce qu'il en fallait bien, bon, je précise que là non plus c'est pas moi qui conduisais, mais bon, c'était Jean Hatzfeld, souvent, bon. Mais donc si vous aviez une voiture ZA, bon, que vous étiez en territoire serbe, bon, vous crevez les pneus au minimum, et vous pouviez avoir de gros emmerdements, et si vous aviez une voiture BO, je crois, enfin BE, qui était une voiture immatriculée à Belgrade, la même chose vous arrivait chez les Croates. Et donc on vous recommandait à l'époque, on dit voilà, le truc où vous serez bien reçu partout, vous n'aurez d'emmerdement nulle part, c'est la plaque SA, Sarajevo, parce que pour l'instant, personne n'a rien à reprocher aux Bosniaques, voilà. Et donc à ce moment-là, moi je travaillais irrégulièrement pour le Figaro. Bon. Et puis bref, enfin de fil en aiguille, après, je me suis, pendant la plus grande partie de cette guerre, les séjours que j'ai faits, c'était principalement à Sarajevo. Quoi. Et à ce moment-là, j'avais suspendu un peu mon activité journalistique et je bricolais des choses avec des gens du CRU, enfin des gens de Sarajevo. Donc je n'avais pas accès à tant d'informations que ça. Encore aujourd'hui, ça reste... Moi, j'ai découvert, par exemple, dans le camp que je supportais, puisque effectivement, j'étais un supporter bon, des Bosniaques. Bon, voilà, je pense n'avoir pas à en rougir, d'ailleurs, même si, inévitablement, quand on prend un parti... C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit que là, j'avais suspendu mon activité journalistique. Hein, quand on prend un parti, c'est d'ailleurs un truc très intéressant. Quoi. Genre, on a tendance, même si on est extraordinairement prévenu contre ça, et notamment par l'exercice du métier de journaliste, on a tendance à s'aveugler, quoi, genre, à ne pas voir ce qu'il y a de déplaisant, voire d'extrêmement déplaisant chez les gens qu'on soutient. Bon. Et moi, j'ai découvert tout à fait à la fin de la guerre, parce que j'ai été faire un tour dans un bled qui s'appelait Zenica, où je n'avais pas eu l'occasion d'aller depuis longtemps, et de voir des camions bâchés, remplis de moudjahidines, avec des barbes longues comme ça, chantant Allah ou Akbar, et célébrant je ne sais quelle victoire contre les Serbes. Voilà, j'étais absolument scié, quoi. J'étais tout à fait inconscient, pendant la plus grande partie de cette guerre, qu'il y eut des volontaires djihadistes du côté des Bosniaques. Or, il y en avait incontestablement. Et donc, tout ça est pas... Et j'irai à l'inverse du côté soit des Serbes, soit des... Il y a beaucoup de fascistes internationaux, ouais. Mais y compris, je veux dire, de braves étudiants en droit parisiens, etc., qui ont été combattre plus ou moins longuement, durablement, du côté des Croates. Et puis d'autres agités du bocal qui ont fait la même chose du côté serbe, etc. Ça reste. Enfin, il y aurait d'ailleurs un livre assez marrant, un livre là, genre l'occurrence d'histoire, quoi, à écrire là-dessus, quoi, sur les volontaires qui ont rejoint l'un des trois camps dans cette guerre de démembrement de la Yougoslavie. Bon. Mais je ne suis pas un spécialiste de cette question. Quoi. Limonov, le cas de Limonov était connu, oui. Mais par exemple, là, j'ai un ami, celui qui s'appelle Rémi Ourdan, bon, qui est grand reporter pour le journal Le Monde, qui a passé toute la guerre, lui, en Bosnie-Herzégovine. Bon. Il était basé à Sarajevo à l'époque. Lui a eu accès, enfin, il a été dans beaucoup plus d'endroits que moi. Il a eu accès à beaucoup plus d'informations. Et par exemple, le point de savoir si Limonov a véritablement combattu en Kraïna, comme il le dit, semble-t-il, reste très obscur. Enfin,
ah oui.
Oui, on ne sait pas du tout s'il a véritablement combattu ou non. Ce qui est notoire, puisque de toute façon, c'est pareil, ça se trouve aussi sur, je ne sais pas si c'est YouTube, enfin, d'une manière ou d'une autre, dans les machines miraculeuses, là, bon, c'est le fait qu'il tire à la mitrailleuse sur Sarajevo. Bon, enfin, là, il le fait effectivement, comme tu le disais, comme un sale gosse dans une foire. Enfin, ça n'arrive à rien. De toute façon, les balles n'arrivent nulle part, vraisemblablement, et voilà. Et en plus, il apparaît, semble-t-il, dans cette vidéo, qu'il ne sait pas s'en servir. Enfin, donc il débute dans le métier. Bon. Et à vrai dire, moi, personnellement, ça me le rendrait plutôt plus sympathique qu'il ait véritablement combattu en Kraïna. Tant qu'à faire des choix impossibles, autant les faire courageusement. Quoi. Bon. Donc, s'il a risqué sa peau avec les Serbes en Kraïna, ou d'ailleurs, enfin, dans une guerre que les Serbes ont perdue, puisqu'ils en ont quand même pris plein la gueule, justement, dans cette guerre de Kraïna, ça le rendrait plutôt plus sympathique. Ce point, apparemment, est controversé, et personne n'en sait rien. Et je vous dis, tout ce qui s'est réellement passé, enfin, du côté des volontaires étrangers dans un camp ou l'autre, ça reste en grande partie enrobé de mystère. Là.
Je ne sais pas si on pourrait peut-être laisser la parole au public. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des questions. N'oubliez pas, il faut bien parler dans le micro, il faut parler clairement dans le micro. Tous ces gens, c'est impossible qu'il n'y ait pas une seule question parmi tous ces gens.
Alors bonjour, la question va être pour Emmanuel. D'abord, je vous remercie d'avoir écrit Limonum, c'est un livre très très bien écrit. On a beaucoup parlé du contenu, du fond. Moi j'ai une question plutôt sur la forme. Vous semblez apprécier prendre à partie des figures historiques réelles pour raconter justement d'autres vies que la vôtre. Dans Limonov, vous faites apparition souvent aussi en tant que narrateur, en tant qu'auteur. J'aimerais que vous nous parliez un peu de votre posture d'écrivain, justement, à l'égard de Limonov. Il semble être une espèce de miroir pour vous, pour vous refléter, pour pouvoir parler un peu de vous. Donc j'aimerais entendre un peu, vous entendre là-dessus. Merci.
Oui, je parle un peu de moi. Enfin, pas, d'abord parce que finalement, dans ce type de livre, ça me paraît assez... naturel. Jean fait pareil, enfin, dans ces livres qui sont à partir sur une matière de reportage, sont des récits à la première personne, ce qui me paraît pas relever de l'exhibitionnisme ou du narcissisme, mais d'une espèce, au fait, presque d'élémentaire honnêteté à l'égard du lecteur, quoi, qui ont dit aussi, voilà, c'est moi qui vous raconte ça, c'est moi entendu, vu, compris, perçu ce que je vous raconte, et c'est pas la vérité révélée, quoi. Ça passe par moi avec mes œillères, mes préjugés, mes ignorances, tout ça. Donc il y a ça. Par ailleurs, la répartition des rôles entre Limonov et moi dans le livre, enfin, sachant que c'est quand même il y a 90% de Limonov et 10% de moi en termes d'importance dans la quantitative dans le livre. C'est un peu, la figure classique, enfin, du voyou et de l'enfant sage, quoi. En quoi d'ailleurs j'ai sans doute peut-être exagéré ma propre sagesse et mon côté gentil garçon un peu timoré. Mais c'est effectivement comme ça qu'à l'époque où je l'ai connu, je percevais Limonov, et d'ailleurs il m'en imposait, enfin, comme une espèce d'aventurier qui avait vécu mille fois plus de choses que moi, qui suis un jeune bourgeois qui est mené une vie assez paisible, enfin au moins extérieurement. Donc voilà, c'est un peu les rôles, c'est un peu ça, quoi. C'est pas extraordinairement original, mais ça fait c'est pas un mauvais ressort, quoi, finalement, cette espèce de fascination là.
Une autre question? Le micro est libre.
Moi, j'aurais une question pour Monsieur Rollin. Je n'arrive pas tellement à comprendre cette fascination ou ce besoin d'aller explorer Britney Spears ou Céline Dion, parce que pour moi, ça m'apparaît un petit peu people et très différent de vos autres livres, à moins que je vous perçoive mal. Mais disons que, comment c'est venu finalement? Vous en avez parlé un petit peu tantôt, le goût d'aller à Los Angeles, mais pourquoi choisir précisément Britney Spears? Et puis, j'aime bien votre titre, qui est très durassien, mais appliqué à... non pas à LOL, mais à Britney Spears. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu?
À vrai dire, non. Enfin, pas beaucoup plus que je ne l'ai fait tout à l'heure. Quoi. C'est peut-être en effet une dramatique erreur de ma part. Je dis, ça me permettait, en fait, sur Britney Spears, à vrai dire, je m'en fous. Je dis, en revanche, ce qui m'intéressait, c'était de décrire cet univers, enfin, notamment l'univers virtuel, enfin, l'univers d'Internet, qui, en plus, pour moi, c'était une découverte, hein, puisque j'ai appris, à défaut d'apprendre à conduire, j'ai appris à me servir d'un ordinateur, en gros, la veille de mon départ pour Los Angeles, en me rendant compte que sans cela, je n'y arriverais pas. Bon, et donc, j'ai découvert tous ces journaux, enfin, ces sites Internet spécialisés. Alors, il y en a encore infiniment plus que de journaux en papier, quoi. Il y a d'innombrables sites spécialisés dans les people, bon, dans les... Et quand on les consulte plusieurs heures par jour, finissent par entraîner une espèce de stupeur ou de fascination, Enfin, c'est un univers qui me paraît quand même très important, parce que c'est celui dans lequel vivent des quantités de gens. Donc, ne serait-ce qu'à ce titre, c'est important et intéressant. Et donc, à défaut de l'étudier, parce que ce n'est pas véritablement une étude, enfin, j'essaie quand même de décrire cela, quoi, de décrire cet univers de pacotille, mais qui est quand même tout un pan important de la réalité dans laquelle on vit, quoi. Après, pourquoi Britney Spears? Pourquoi pas Britney Spears? Bon, c'est vrai que j'aurais pu choisir quelqu'un d'autre. D'ailleurs, dans le cours de ce livre, de ce récit, une autre starlette, encore moins connue, qui est Lindsay Lohan, prend le pas ou tend à prendre le pas sur Britney Spears. Bon, je veux dire, tout ça est assez indifférent, quoi. Je voulais évoquer un univers... dont Britney Spears est représentative et qui me paraît important. Quand vous pensez que le magazine Forbes, que je ne lis pas plus que vous, mais la cité il y a quelques années comme la femme la plus puissante du monde, voilà, c'est quand même, ça veut dire quelque chose, enfin, même si c'est un peu hyperbolique, on se doit quand même de s'intéresser par moment à quelqu'un qui est présenté comme la femme la plus puissante du monde. Mais je dis en même temps, donc elle ne m'intéressait pas tant personnellement que par l'univers, le système qu'elle me permettait d'évoquer. Voilà. Et moi, je n'ai pas eu l'impression, contrairement à vous, de m'éloigner beaucoup de mes sources habituelles d'intérêt, enfin, ou des ambiances et des milieux, des biotopes qui m'intéressent d'habitude, quoi. D'autant plus, je dis quand même, je n'ai pas fait la part des... Je n'ai pas sous-pesé, si vous voulez, les différentes parties de ce livre. Bon, enfin, il me semble qu'il est quand même énormément question d'autre chose que de cet univers. Il est question des aspects, si vous voulez, de Los Angeles et de la vie à Los Angeles. Qu'il s'agisse, je ne sais pas quoi, moi, des SDF, des flics, même de l'activité portuaire à Long Beach, etc. Enfin bon, j'ai voulu faire... Bon, alors, ai-je réussi ou non, j'en sais rien. Mais enfin, une espèce de portrait de cette ville, quand même, aussi. Hein.
Est-ce que je peux ajouter quelque chose, enfin apporter à mon témoignage d'ami Jean Rollin, c'est que nous, et moi et une ou deux personnes qui lui sont proches, l'entendant à un moment, je sais pas, parler avec une sympathie amusée de la figure de Britney Spears, on a dû lui dire, mais ça serait marrant que qu'au lieu de faire un livre toujours sur des friches, les zones les plus déshéritées, les plus frontalières de notre monde, tout à coup tu ailles vers les paillettes, glamour, choses comme ça, comme ce serait divertissant, comme ce serait étonnant que tu fasses ça. Le résultat, c'est que Jean, le faisant, finit par effectivement faire essentiellement des trajets en bus avec des SDF et des femmes de ménage portoricaines. Voilà, bon.
Bonjour. Alors moi, c'est une question pour Monsieur Limonov. En fait, parce que j'ai fait carrément dans ma tête une espèce de... j'arrive pas, c'est ça, à faire la distinction. En fait, je suis un peu embêtée par votre livre... Pour deux raisons. La première, c'est que je trouve que vous faites très bien. En fait, si le livre avait été une fiction, j'aurais été comme vous, c'est-à-dire à trancher, à savoir est-ce que je le trouve bien, est-ce que je le trouve héros ou anti-héros. Comme c'est pas une fiction, je suis très embêtée, surtout quand ça arrive à la question de la participation à la Bosnie. Et ce que vous venez de dire, je trouve ça tout aussi dangereux parce que je voudrais remettre certaines choses en perspective, parce qu'il y a une différence, si vous voulez, de défendre En fait, il ne s'agissait pas du tout d'une guerre, il s'agissait d'une agression. Ce n'est pas un peuple qui faisait la guerre à un autre peuple. Donc, c'est l'agression des Serbes assidue par rapport aux Bosniaques. Et donc, quand vous dites pourquoi pas, en fait, appuyer cette espèce de héros qui s'est transformé en héros, on le trouve sympathique, parce que de toute façon, les Mujahedines ont aidé les Bosniaques. Je ne suis pas sûre que ça, c'est vraiment ça, que ce n'est pas passé comme ça. Quand vous dites, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que quand il y a eu le siège, en fait, vous savez que toutes les frontières ont été fermées et qu'il n'y a rien qui rentre en Bosnie, il y a un embargo. Le gouvernement bosniaque a demandé justement à l'Europe de lever l'embargo pour que les armes puissent rentrer, pour que les Bosniaques puissent se défendre. Or, la seule chose qu'on laissait rentrer en Bosnie, c'était justement les Mujahedines. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, quand ça arrive à un moment donné dans votre livre, cette question-là, moi, je suis embêtée parce que justement, je sais que c'est plus la fiction et c'est un fait historique qui est arrivé, c'est un génocide et je le trouve un peu dangereux, cette espèce de relativisme que vous faites un peu tous les deux en disant que bon, bah, on ne sait pas trop s'il est sympa ou il n'est pas sympa. Ça m'embête un petit peu, j'aimerais ça que vous me disiez un peu plus du point de vue moral et éthique ce que vous faites de cette figure-là.
Alors, non, j'entends très bien ce que vous dites, mais honnêtement, j'ai quand même écrit toute cette partie. D'une part, encore une fois, elle m'a fait abandonner le livre pendant un bon moment. Je suis revenu à ça vraiment en marchant sur des œufs, en essayant de dire le moins de bêtises possible, peut-être en ai-je dit. Mais je pense vraiment, je me trompe peut-être, mais je pense vraiment pas avoir fait preuve de complaisance à l'égard de Limonov à ce moment-là. J'ai vraiment l'impression, dans toute cette partie-là, de parler, enfin, de non seulement de parler de lui avec sévérité, mais de ne pas du tout le présenter comme un héros là. Ce que je présente, c'est un type qui a effectivement, qui est mu par l'idée de se conduire en héros, de mener une vie héroïque, et que ça amène à se fourvoyer de façon catastrophique là. Et ça me paraît intéressant à raconter, mais je pense pas du tout l'avoir fait avec complaisance à son égard, ni, enfin, j'espère, en traitant de ces choses à la légère.
Mais le fait que vous lui donnez une tribune et que vous ne savez pas vous-même si on le trouve sympathique ou pas, je trouve ça problématique d'un point de vue...
Je pense qu'à d'autres moments de sa vie, il m'inspire, oui, de la sympathie et de l'estime. À ce moment-là, pas du tout. Mais ça me paraît quand même quelque chose de... qu'on peut faire dans un livre, de montrer un personnage qui est à certains moments absolument odieux et condamnable, et à d'autres digne d'estime et de respect. Ça existe.
Si c'est de la fiction, c'est ça que je trouve la frontière
mais pourquoi,
entre...
Mais pourquoi si c'est de la fiction dans la
Parce
vie,
que c'est pas la fiction, c'est comme
oui,
si...
mais dans la vie, ça existe aussi.
Oui, mais on ne peut pas... effectivement, pour moi, je vous dis, je suis embêtée parce que, justement, je sais que Limonov était à Sarajevo, je sais qu'il tirait sur les innocents, et ça, du point de vue moral, ça me prend un problème. C'est tout
mais
ce que
mais
je
à moi aussi. Et il me semble que j'en fais état de ce problème, que je le dissimule pas.
Ouais, en tout cas.
Enfin, j'espère. Là aussi, ensuite, c'est vraiment des questions de...
Je ne suis pas tout à fait convaincue, mais merci.
D'accord.
Bonjour, j'avais une question pour Emmanuel Carrère. En fait, je voulais revenir sur l'apparition de Limonov au début du roman, qui surgit lors de la cérémonie de commémoration des victimes de l'attentat qui avait eu lieu dans un théâtre en moscovite en octobre 2002, je crois. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là... Le narrateur est présent dans la foule qui tient une bougie à la mémoire des morts de l'attentat. Et Limonov apparaît comme une sorte de fantôme. Une femme qui, à côté de moi, l'avait repéré aussi, a dit à sa voisine, « Edouard est là, c'est bien. » Il a tourné la tête, comme si malgré la distance, il l'avait entendu. La flamme de la bougie a creusé les traits de son visage. J'ai reconnu Limonov. Moi, quand je lis ça, en fait, j'ai qu'une phrase en tête, c'est un spectre entre l'Europe et c'est celui du communisme. Et c'est comme ça, en fait, que je voulais vous poser ma question, c'est-à-dire dans quelle mesure le personnage de Limonov peut représenter une sorte de la perspective d'un renouveau, d'un renversement de Poutine par une figure qui, d'une manière complètement grotesque, réincarnerait le passé communiste de l'URSS. Et c'est-à-dire, dans, mais vraiment, alors là, pour une, c'est-à-dire de, à, d'une autre façon, d'une manière complètement grotesque. C'est-à-dire que moi, en réfléchissant à ce que vous disiez sur Limonov, j'ai l'impression de le voir comme une figure, une sorte de Poutine mégalomaniaque et obsédé par le pouvoir de nuisance des contestataires, mais au nom du communisme.
Je pense que c'est comme ça qu'il se voit lui, enfin qu'il se voit pas, enfin lui se voit pas comme grotesque, mais il se voit comme enfin, ce à quoi il aspire, c'est à prendre le pouvoir au nom, en effet, de valeurs, enfin, qui sont extraordinairement confuses et qui mélangent absolument tout, mais dans cette espèce de pâté de pudding de valeurs contradictoires, tout ça, la nostalgie du communisme se fait en effet la part du lion, quoi. Maintenant, je pense honnêtement que les chances de Limonov de prendre le pouvoir, où que ce soit, sont, Dieu merci, extrêmement faibles. Mais oui, c'est à ça qu'il aspire. Et ce qu'il traduit, enfin, ce qu'il exprime, c'est... ce qui est assez curieux, son parti est un parti de très jeunes gens. C'est un homme qui lui, a bientôt 70 ans, mais c'est le seul homme, je veux dire, non, pas seulement âgé, mais adulte même là-dedans. C'est un parti dont les personnes n'ont plus de 25 ans là-dedans. Les gens qui sont un peu plus âgés, eh ben, ils arrêtent, quoi, tout simplement, à un moment. Dans le meilleur des cas, ils se trouvent, je sais pas, un métier, une famille, tout ça. Et ils se rappellent de ça comme, je sais pas, d'avoir fait partie d'un groupe de rock, en croyant qu'ils allaient passer professionnel ou un truc comme ça. Et voilà, c'est une espèce de façon de vivre une espèce un trip un peu héroïque un peu où ils vont en prison où ils sont méprisés par tout le monde où la police leur fait la chasse tout ça et bon c'est politiquement c'est totalement c'est vraiment enfin n'importe quoi le parti Limonov, mais ça exprime aussi, ce qui est curieux, c'est que ça exprime, c'est vraiment des très jeunes gens qui l'expriment, c'est une espèce de nostalgie de quelque chose qu'ils idéalisent qui était un temps où il y avait je sais pas, où on pouvait être fier de son grand-père qui était le meilleur tractoriste du kolkhoz, quelque chose comme ça, enfin c'est où ils étaient se figure-t-il fiers de ce qu'ils étaient et qui voient le... Non, ça exprime un peu aussi le désarroi et la rancœur d'énormément de gens laissés sur le bord du chemin, quoi, dans la Russie d'aujourd'hui, qui est quand même un pays extraordinairement cynique et brutal, quoi, et où il n'importe que de gagner beaucoup d'argent. Il y a ceux qui gagnent beaucoup d'argent et qui y arrivent, et puis il y a toute la masse de ceux qui sont absolument largués. Et voilà, ce qui est terrible, c'est que c'est à la fois, les gens de chez Limonov, c'est à la fois des, on pourrait dire, des petits fachos, mais c'est en même temps les indignés de là-bas, hein. C'est d'une certaine façon. Ou ça peut ressembler aussi à quelque chose comme, enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais on en a parlé chez nous à un moment donné, l'histoire des autonomes, du groupe de Tarnac, de ces trucs-là, ça ressemble aussi à ça. C'est aussi une espèce de forme de contre-culture russe, c'est-à-dire qu'il y a c'est plein de gens qui ça correspond pas, disons, au profil d'un groupe de néo-fascistes. C'est vraiment tous les types qui bidouillent de la bande dessinée, de la vidéo, qui font des groupes de rock, des choses comme ça, quoi. C'est un drôle de truc. Je connais une jeune femme qui fait un documentaire au long cours là-dessus, qui est qui vient d'un bon monde de gauche français, tout ça, et qui est totalement déroutée par ce qu'elle voit là, en disant c'est terrible, c'est des petits fachos, et en même temps c'est des types mais incroyablement émouvants et adorables, quoi, et c'est très très troublant pour elle de faire ça. Et je trouve que c'est bon, c'est intéressant de raconter ça. Je ne dis pas que ça soit, représentatif de grand-chose, parce que le parti de Limonov, ça doit être quelques milliers de personnes pour toute la Russie, hein. C'est vraiment pas grand-chose.
Peut-être une dernière question, avant qu'on signe les livres. Mais sinon, il me reste à vous remercier. Merci Emmanuel, merci Jean-Rolin, merci à vous d'être venu.
Merci.